Cours de philosophie du vivant par le Père Philippe à Saint-Jodard le 31 mai 1989.
Nous avions commencé la dernière fois à propos du sens de l'ouïe. Pas trop détaillé, mais ce qui est important, c'est de voir, dans la mesure du possible, relisez dans Aristote ce qu'il dit. C'est intéressant de voir l'analyse qu'il fait. L'ouïe, c'est le sens qui nous permet de capter le son. Et le son par excellence, le plus parfait, c'est la parole qui implique le son, un son vivant, les cris des animaux, c'est intéressant, mais surtout les cris humains, la voix humaine permet ce contact avec la personne. Vous voyez, je vous disais la dernière fois comment nos sens sont notre contact avec le monde physique, contact immédiat, mais dans le monde physique, avec l'homme, d'une façon très spéciale. Alors, il est intéressant de noter que l'ouïe, c'est quand même le sens qui se diversifie le plus par rapport au contact avec l'homme. Au point de vue de la vue, la vision, un homme qui ne parle pas, qui se tait, je le vois. Et évidemment, il y a une finesse de la physionomie, du visage, des yeux, qu'on ne retrouve pas chez l'animal. Normalement, évidemment, il y a des hommes qui sont quelquefois un peu barbares et sauvages. On dirait qu'il n'y a pas grande différence. C'est vrai, on a tous rencontré de ces hommes proches. Alors on comprend la théorie de l'évolution à ce moment-là. Autrement, normalement, quand on a affaire à un beau visage illuminé par les yeux, qui est le feu qui sort des yeux, on voit toute l'abîme qui existe entre l'animal et l'homme. C'est vrai, il y a un abîme. Mais c'est quand même vu de l'extérieur. Le regard seul permet une certaine intériorité. Je ne l'ai pas dit à propos de la vision, mais c'est important de le souligner. Ce que Platon souligne de façon très forte. Aristote ne le souligne pas tellement. Ce que Saint Jean souligne dans son Apocalypse, des yeux comme une flamme de feu. Que l'homme se révèle, on sait bien, deux êtres qui s'aiment et qui se regardent, c'est quelque chose d'assez particulier. La modestie des regards, c'est quelque chose aussi très particulier, vu qu'on ne regarde pas d'une façon outrageante les êtres. Des regards comme ça, c'est une curiosité folle. leur dit non, non, attention. C'est très curieux, le regard est à quelque chose de très puissant. Comme il peut avoir aussi quelque chose de très doux. Il peut avoir quelque chose de très puissant. Vous voyez, alors, c'est déjà. Aristote se tient, lui, à l'analyse. Mais à l'analyse toute simple. Et je crois qu'on peut compléter ce que dit Aristote en voyant le caractère humain de la vision. Le caractère humain des sens. Ce qu'Aristote ne fait pas du tout. Ça, c'est la rigueur d'Aristote. C'est farouche. Il est en face de Platon. Pour nous, je crois que dans une philosophie du vivant, on doit rappeler tout le temps que quand on étudie la vie végétative, c'est la vie végétative de l'homme. Quand on étudie la vie sensible, c'est la vie sensible de l'homme. Et chacun des sens a une modalité particulière par rapport à l'homme. Là, vous voyez le toucher. La poignée de main. C'est vrai. On dit beaucoup de choses dans une poignée de main. Quand vous voulez dire à quelqu'un que vous compatissez, c'est pas par les regards. Au contraire, vous baissez le regard. C'est indiscret de regarder quelqu'un qui pleure. Et quand vous avez vouloir dire la compassion, vous serrez la main. Et vous serrez la main de telle manière que vous témoignez que vous êtes là, présent, et que vous compatissez. Et le sens de la compassion peut toucher. Je crois que c'est le sens le plus fort de la compassion. Et qui est un lien. C'est un sens très affectif, le toucher. Et donc c'est normal que ce soit le point de vue de la compassion. La douleur est liée au corps. Et donc, par la main, le point de vue de la douleur, qu'on porte la douleur de l'autre. Il y a une proximité par le toucher qui est très unique. Comme quand on s'embrasse. Il y a donc ça qui est très particulier. La vision, c'est le regard. Retrouver le regard de l'autre. Oui, le regard d'un enfant. C'est très beau. La limpidité du regard de l'enfant. Et la gravité du regard de l'homme. Du vieillard. Il y a quelque chose là, de typiquement humain dans la vision. Oui. La lumière, mais la lumière personnelle, c'est le regard. C'est la lumière de l'homme par rapport à l'homme. Et alors, lorsqu'il s'agit de l'ouïe, c'est le son aigu et grave. C'est ça qu'on entend. Il y a des sons d'une gravité et des sons aigus et stridents. Mal. Des sons métalliques, comme on fait aujourd'hui, dans toutes ces musiques. Des sons métalliques poussés à l'extrême. Et puis, il y a la voix. Vous voyez, tout de suite, le côté plus affectif. C'est vrai que l'ouïe est un sens très affectif. Aussi, comme le toucher. C'est pas la même affectivité. C'est une autre affectivité. Le point de vue de Louis. Louis, vous entendez la voix de quelqu'un, les sanglots. Vous entendez le rire. Et vous entendez la parole. Et à ce point de vue-là, Louis a quelque chose de très humain. C'est la voix de quelqu'un. Dans la parole, la voix est l'aspect le plus affectif. Je connaissais une épouse qui suivait les cours de son mari, qui était philosophe en Sorbonne. Et ce qu'elle entendait avant tout, c'était la voix. C'était pas le contenu philosophique. C'était la voix. C'était très intéressant de l'entendre parler après un cours. Des inflexions de voix de le moment. Elle suivait comme ça le cours. Normalement, un cours de philosophie, on le suit quant à son contenu. Mais vous voyez, ça, c'est le point de vue de l'intelligence. Parce que Louis ne saisit pas le contenu. Saisit pas la signification. La signification, c'est l'intelligence. C'est l'intelligence qui saisit la signification des choses. Et qui donne la signification, c'est pas Louis. À l'égard de chaque sens, c'est comme ça. L'intelligence est toujours présente dans chacun des sens. Je peux pas abstraire ma vision de l'intelligence. Impossible. Je suis intelligent en voyant. Je suis intelligent en écoutant. Plus ou moins. Il y a des choses que vous écoutez avec une très grande intelligence. Il y a des choses que vous voyez avec une très grande intelligence. Quand vous touchez avec votre intelligence. Et votre cœur. Puisque vous voulez manifester votre amour, votre compassion, et quand vous voyez aussi, vos yeux deviennent des flammes de feu à cause de l'amour que vous avez pour la personne que vous regardez. Je te regarde dans les yeux. Et vous voulez faire passer quelque chose à travers, quelque chose d'intelligent, quelque chose d'affectif. Et dans Louis, on reçoit la voix, la parole de l'autre. Louis est lié très fort à la question de l'enseignement et de la tradition. On écoute la parole de Dieu. Vous voyez, le lien entre la foi et Louis. Et non pas la foi et la vue. Ben, cette espèce d'opposition qu'on a fait, où il y a quelque chose, du moins cette distinction qu'on a faite entre le grec et le sémite. Le grec, c'est l'homme de la lumière. Et le sémite, c'est l'homme de Louis. Il y a quelque chose de juste. Il est évident que la foi et la tradition nous mettent dans cette attitude d'écouter l'autre. La tradition, c'est justement ce qui n'est pas écrit. Donc d'écouter l'autre et d'être en liaison avec l'autre. Et le propre de la foi, c'est d'être une connaissance ex auditu à partir de l'audition. Parce qu'on ne voit pas. Et l'attitude du croyant augmente donc l'attitude d'écouter. Le croyant, c'est celui qui écoute, qui entend l'autre en entendant sa parole sans le voir. Et c'est très curieux, la connaissance qu'on a de quelqu'un sans l'avoir vu et uniquement par lui. On avait cette expérience avant, chez les carmélites. On ne les voyait pas et on les entendait derrière les grilles. Puis le jour où on les a vus, il y a eu la comparaison de la vision et l'audition. Alors si on était suffisamment à l'écoute, on ne s'imaginait pas la vision. Mais quand on n'est pas assez à l'écoute, on s'imagine la vision. Et c'est jamais la tête qui correspond. C'est très curieux. Il y a une harmonie entre les deux. Mais en même temps, il y a une diversité. Vous pouvez et silence enfin, et être en présence. Oui, on distingue les deux. Le silence, mais en présence. Quand on parle de trop, on jase. Et on n'est pas en présence. Quand on chante, c'est l'aspect affectif qui va dominer. La parole, elle a quelque chose de plus sobre. Mais il y a la tonalité, il y a le son. Et le son est affectif. Viens ainsi, Louis. Louis me permet d'avoir ce contact avec l'autre pour être enseigné. C'est pour ça qu'on dira que Louis, c'est le sens de l'enseignement. On est enseigné, on écoute, on sait écouter. La vision vous rend beaucoup plus autonome. Ça, c'est sûr. On est beaucoup plus autonome par la vision. C'est pour ça que le grec, comme souligne Hegel, c'est la liberté, c'est la vision. Tandis que le sémite, c'est Louis, c'est la dépendance. C'est la foi. Il ne faut pas exagérer, mais il y a quelque chose de juste. Il y a quelque chose de très particulier dans Louis. Comme connaissance de l'autre, c'est pas le seul. Je connais l'autre aussi par son regard. Je connais l'autre aussi par son visage. Mais la parole est quand même plus intérieure que le visage. Alors, est-ce que la parole est plus intérieure que le regard? Posez un point d'interrogation. Il y a un regard qui, quelquefois, vous fait comprendre beaucoup, beaucoup de l'intériorité. Comme la parole, comme le son. Alors, je crois que là, vous voyez, on distinguera au plan humain des psychologies très différentes. Il y a des hommes et des femmes qui sont beaucoup plus portés vers le regard et d'autres vers le point de vue de la parole. Et que sûrement c'est une grande répercussion. Et l'éducation qu'on a reçue fait qu'on est plus attentif à tel ou tel aspect. Alors, quand en plus il y a l'art, vous voyez, l'art pictural développe le regard, et l'art musical développe l'ouïe. Mais alors là, c'est les sons, c'est avec l'imaginaire et l'intelligence et l'amour. Dès qu'il y a art, il y a le sensible, la sensation, c'est sûr. Mais l'imagination, la mémoire, le côté affectif et le point de vue de l'intelligence. La musique n'est pas seulement, n'est-ce pas, l'art du son. Non, 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 non. C'est un art intellectuel et affectif. Alors, c'est plus ou moins intellectuel, plus ou moins affectif, ça dépendra. Suivant que c'est plus ou moins classique ou romantique. Mais c'est la sensation joue un rôle quand même premier et donc développe davantage ce point de vue du son, le point de vue de la voix. Alors, je vous lis ce passage encore d'Aristote, toujours donc ce même. Aristote parlera ensuite de la voix, ici. Et donc sonore, le corps capable d'ébranler l'air comme une seule masse continue jusqu'à l'organe de l'ouïe. Or, l'organe de l'ouïe est naturellement contigu à une masse d'air. Voyez, alors l'organe de l'ouïe. On a beaucoup de choses à apporter, qu'Aristote ne dit pas. La science a développé énormément l'organe des sens. passe vers son organe des sens. Et sans la faculté. Or, l'organe de l'ouïe est naturellement contigu à une masse d'air. Et parce que cet organe est situé dans l'air, lorsque l'air externe est ébranlé, l'air interne s'ébranle à son tour. Tu vois le mouvement, hein? On a vu la dernière fois, le son est lié au mouvement. Et ça, c'est sûr que le point de vue du son, le point de vue de l'ouïe, est une sensation qui nous lie au mouvement de l'univers. Vous voyez, tandis que la vision, la lumière, au-delà du mouvement, là, ça fait tout de suite une très grande différence entre les deux. Ça fait comme presque deux extrêmes, si vous voulez. On sent très bien. C'est pour cette raison que l'être vivant n'entend pas par toutes les parties de son corps et qu'inversement, l'air ne le pénètre pas de partout. C'est très curieux de voir que l'ouïe, justement, ce contact avec l'extérieur, par l'air, qui n'existe pas dans le toucher, qui existe moins dans la vision. C'est un sens de l'immanence, l'ouïe, très très fort. C'est pour ça que facilement l'ouïe conduira à une sorte de panthéisme. C'est curieux ces choses-là, du reste. Pas la vision. La vision donne le sens du transcendant. Tandis que l'ouïe donne le sens de l'immanence. C'est un sens très très d'immanence. Vous voyez ce qu'Aristote souligne là. Car ce n'est pas en tous ces points que contient de l'air la partie du corps qui doit se mouvoir et être animée et animée. Ainsi donc, l'air est de soi un élément insonore parce qu'il se dissipe facilement. Mais quand il est empêché de se dissiper, donc arrêté, son mouvement produit un son. Quant à l'air qui est enfermé dans les oreilles, c'est afin d'y être immobile et de percevoir ainsi avec exactitude toutes les vibrations du mouvement. Voilà pourquoi nous entendons même dans l'eau. Celle-ci ne pénètre pas jusqu'à l'air contigu par nature à l'organe de l'ouïe. On voit Aristote faisant ses petites expériences plongeant sa tête dans le nuage. Mais plus non plus d'ailleurs que dans l'oreille à cause du labyrinthe. Quand cela vient à se produire, on n'entend plus. Et de même, en cas de lésion de la membrane auditive, comme de l'enveloppe de la pupille, lorsqu'elle est lésée. Mais le symptôme qui permet de savoir si l'on entend ou non, c'est le bourdonnement continu de l'oreille saine, comparable à celui d'une corne. Toujours en effet, un mouvement spécifique ébranle l'air contenu dans les oreilles, tandis que le son reste étranger et n'est pas propre à l'oreille même. C'est pourquoi l'on dit communément que l'on entend grâce au vide et à ce qui résonne, car en fait, nous entendons grâce à l'organe qui contient une masse d'air bien déterminée. Vous voyez, le souci de la continuité lorsqu'il s'agit des sensations. La continuité immédiate avec le monde physique. Alors évidemment, ça c'est les sensibles communs. Vous voyez, l'organe est lié au sensible commun. L'organe n'est pas lié au sensible propre. C'est pour ça que l'étude de l'organe conduit au sensible commun. C'est la faculté propre d'audition qui seule nous permet de comprendre le sensible propre. Alors, l'on touche là. Oui, c'est assez. On voit très bien, du reste, au point de vue étude. ou le corps frappant qui émet le son. N'est-ce pas plutôt l'un et l'autre, quoique différemment? Le son est en effet un mouvement de ce qui peut se mouvoir à la manière exacte des objets qui rebondissent sur des surfaces polies quand on les lance contre elles. Ce n'est pas, certes, nous l'avons dit, que n'importe quel objet frappé ou frappant émet un son. Par exemple, une aiguille heurtant une autre aiguille. Ce qu'il faut, c'est que l'objet frappé soit plan, de telle sorte que l'air rebondisse et vibre comme une seule valse. N'est-ce pas quand vous entendez le verre qui ronge le bois? Personne qui a un ouïe très aiguë entend le verre qui ronge le bois. Je sais quelqu'un qui avait comme ça. Et c'était vrai, c'était authentique. On l'a vérifié. Il y a un verre là qui ronge le bois. Ah, regardez, juste à l'endroit, on trouve un petit verre qui ronge le bois. Oui, le son. L'aiguille qui pénètre. Les différences entre les sons se manifeste dans le son en acte. De même que sans lumière, on ne voit pas les couleurs. De même, sans le son, on ne perçoit-on l'aigu ni le grave. Ces termes sont employés par métaphore en partant des qualités tangibles. En effet, l'aigu meut le son, meut le sens en peu de temps et d'une manière prolongée, tandis que le grave le meut lentement et pour une brève durée. C'est très curieux la question du temps qui intervient à cause du mouvement. C'est pour ça que l'ouïe a un sens de la durée que n'a pas du tout la vue. C'est un sens de la durée, oui. À cause de ça, parce que c'est lié au mouvement et donc au temps. Et un temps intérieur. Alors, c'est intéressant, cette petite remarque. Ces termes sont employés par métaphore en parlant des qualités tangibles. En effet, l'aigu meut le sens en peu de temps. C'est vraiment un son très aigu. Ça vous arrache. Donc, il meut en peu de temps, d'une manière prolongée. Ça reste. La durée, ça reste. Tandis que le grave meut lentement. C'est vrai, la voix grave, c'est quelque chose de majestueux. C'est même très curieux, une voix grave qui dit des choses légères. On a toujours envie d'éclater de rire. Astucieux. C'est donc par voie de conséquence
Seulement que l'un est rapide, l'autre lent. Par voie de conséquence, donc c'est métaphorique. Mais c'est pas le son lui-même, mais c'est métaphorique par rapport à un autre sens. Mais ça, c'est très très fin comme analyse. Parce que ça montre que très très vite, nous passons dans les analogies d'un sens par rapport à un autre. Mais alors, on quitte le sensible propre. Les analogies se font par les sensibles communs, qui sont communs. Pour le son, bornons-nous à ces déterminations. La voix, elle, est un son émis par l'être animé. Aucun des êtres inanimés, en effet, n'est doué de voix. N'avait jamais vu un caillou qui criait. La métaphore, si tu ne fais pas ça, les cailloux eux-mêmes crieront. C'est métaphorique. C'est seulement par ressemblance qu'on leur attribue une voix. Telle la flûte, la lyre. Et tous les autres objets inanimés qui comportent registres, mélodies et langage. Ils sont instruments de l'homme. Alors, en tant qu'instruments de l'homme, on leur attribue ça. Ils permettent à la foi humaine de développer certaines de ses virtualités. C'est net pour la flûte, pour la lyre. L'orgue, c'est différent. Mais c'est analogue. Il semble en effet que la voix elle-même comporte ces éléments. Mais beaucoup d'animaux ne possèdent pas la voix. Par exemple, ceux qui n'ont pas de sang. Et parmi ceux qui en ont, les poissons. Ah, les poissons quand même des voix. Vous avez entendu les poissons? Les requins. Vous n'êtes pas tout proche, alors vous les entendez pas, mais autrement. Ils sont dans l'eau. Alors l'eau, évidemment, atténue beaucoup. Cela, d'ailleurs, est rationnel. Il est vrai que le son consiste en un mouvement de l'air. Quant aux poissons auxquels on attribue la voix, comme ceux de Archélaus, ils produisent des sons par les branchies ou quelque autre organe du même ordre. La voix est donc le son émis par un animal. Donc la voix est liée à la vie. Ça. Et la vie va apporter quelque chose de particulier. Vous voyez, la lumière n'est pas liée à la vie. C'est très curieux, c'est que le son étant lié au mouvement, le sémo verré du vivant va transformer le son en voix par l'immanence de la vie. En effet, puisque tout son est produit par le choc de quelque chose contre quelque chose et dans quelque chose, ce dernier élément étant l'air, il va de soi que seuls produiront la voix les êtres qui reçoivent l'air en eux-mêmes. C'est qu'en effet, la nature utilise l'air inspiré à deux fins, comme elle emploie la langue pour le goût et le langage. Ah, ça, c'est les constatations d'Aristote, très intéressantes. C'est que normalement, plus un instrument et perfectionné, plus il ne sert qu'à un seul usage. Propre de l'instrument. Les instruments très perfectionnés. Les instruments qui ne sont pas très perfectionnés servent à plusieurs usages. Mais un instrument très perfectionné ne sert plus qu'à un seul usage. On le voit bien aujourd'hui. Les instruments très poussés. L'ordinateur. Ça ne sert qu'à un seul usage. ici Aristote fait cette petite remarque. Il fait cette remarque très curieuse. C'est qu'en effet, la nature utilise l'air inspiré à deux fins. Comme elle emploie la langue pour le goût et le langage. Le goût est une fonction nécessaire, dévolue pour cette raison à un plus grand nombre d'animaux. Tandis que la faculté d'expression vise à la perfection de l'individu.
Le goût, c'est pour l'espèce.
Tandis que le point de vue du langage, c'est pour l'individu. C'est aussi une petite remarque très intéressante. Ouais. Le langage, c'est la personne. Donc c'est l'individu. Et la langue sert pour le point de vue de l'individu. Elle peut servir aussi pour l'espèce. En couple. Quand vous mangez, hein, c'est pour l'espèce. Quand vous goûtez un bon dessert, les jours de fête, n'est-ce pas? Alors, à ce moment-là, vous goûtez individuellement. Le jeûne, c'est ramener l'individu à l'espèce. Manger pour vivre. Uniquement. Hein, je prends philosophiquement parlant, ça, on n'est pas type surnaturel. Tandis que l'individu a la faculté de manger plus que pour l'espèce. Quand il mange un peu de trop, c'est pas pour l'espèce. Alors écoute. Écoute pour l'individu. Et ça, c'est l'aspect artistique. C'est la différence entre la gourmandise et puis le. La gourmandise, autre chose. C'est l'individu. Mais ça, c'est très intéressant comme partage de finalité. C'est ainsi que la nature emploie le souffle pour entretenir la chaleur interne nécessaire à la vie. Il faut du carburant. La cause en sera donnée ailleurs et pour produire la voix. Prenez l'oxygène, le carburant, et puis aussi le point de vue de la voix, pour produire la voix qui procure la perfection du vivant. La voix, c'est pour procure la perfection du vivant individuel, personnel. L'organe de la respiration est le larynx, et la raison d'être de cette partie du corps. Et de servir à son tour le poumon. C'est grâce à cet organe, en effet, que les animaux terrestres possèdent plus de chaleur que les autres. La respiration est encore nécessaire en premier lieu à la région précordiale. Aussi faut-il que l'air inspiré pénètre à l'intérieur de l'animal. Par suite, le choc de l'air inspiré produit par l'âme qui anime ces régions du corps contre ce qu'on appelle la trachée artère, constitue la voix. Explication extraordinaire de la voix. Alors, voyez, tout ça demanderait un parallélisme avec ce que le savant dit aujourd'hui. Et alors, on verrait ce qu'il y a d'imaginaire, en gros, de ce que dit Aristote. Il faudrait faire grande attention, parce qu'Aristote cherche les principes. Alors c'est ça qui est très très curieux. Tandis qu'au contraire, la science moderne cherche le comment. Pas le principe, les liaisons, les lois. Et c'est à l'égard de ça que l'affrontement du biologiste au point de vue scientifique et l'affrontement du philosophe, parce qu'on n'a rien dit depuis. Cet homme répète tout ça. Il ne corrige absolument rien, parce que la science n'était pas encore. Ce serait notre devoir
philosophique, de comprendre le parallélisme qui existe entre le point de vue biologique et philosophique. Ceux qui ont déjà la connaissance de la science biologique doivent le faire. Et notre frère Pascal, comme médecin, il le fait constamment. Et ça, c'est très intéressant. Parce que ça montre combien Aristote, avec très peu de moyens, a une telle intelligence de la chose. Et le philosophe s'intéresse avant tout à la recherche des principes. Or, la cause matérielle ne dit pas grand-chose. Ça dispose. Elle ne donne pas de principe propre. C'est pas la matière qui explique le vivant. C'est l'âme. Le sema vere. Tandis que la matière, c'est ce qui est mu. Et donc, même une connaissance beaucoup plus parfaite de l'organe, s'il n'y a pas la connaissance de l'âme, ça ne fait pas connaître ce que c'est que l'audition. Fait, ça nous permet de mesurer quand il y a des difficultés et des manques, ça peut aider beaucoup. C'est vrai, par la technique. Mais ça ne nous fait pas comprendre ce que c'est que l'audition. C'est tout son émis par un animal. Bon, c'est que tout son émis par un animal n'est pas la voix. Nous l'avons dit. On peut faire du bruit avec la langue ou en toussant. Ou en riant. Mais il faut que l'être qui produit le choc soit animé et mette en œuvre quelques représentations. Car la voix est assurément un son chargé de signification et non pas un bruit produit simplement par l'air inspiré, comme la toux. Dans la voix, on frappe avec l'air inspiré, l'air de la tranchée artère, contre la paroi de celle-ci. La preuve en est que l'on ne peut exercer sa voix en inspirant ni en expirant, mais seulement en retenant son souffle, car les mouvements se produisent grâce à l'air ainsi retenu. On voit aussi pourquoi les poissons sont aphones. Ils n'ont pas de larynx. Et s'ils sont dépourvus de cet organe, c'est qu'ils ne reçoivent pas en eux-mêmes l'air extérieur, ni ne respirent. Quant à savoir pour quelle raison, c'est une autre question. Comme c'est amusant. C'est extrêmement amusant. C'est intelligent. Et alors, il y a des choses qu'on devrait préciser, qu'on devrait montrer davantage par le point de vue scientifique de l'organe. Mais la finalité propre, vous voyez, cette étude entre le son et la voix, c'est très intéressant. Et la voix et le langage, donc discernons toujours les trois, le son, la voix et le langage. Tout langage implique nécessairement la voix, et toute voix implique le son. Et vous avez les trois degrés, voyez. C'est ça qui est très, très astucieux dans cette étude. Et ça, vous le voyez de façon très particulière par Louis. Sous ce point de vue-là, c'est le sens le plus humain. Oui, c'est le sens humain par excellence. Vous avez donc le son, la voix, le langage. Le son, on est au niveau physique, le mouvement. Tout son est lié au mouvement. La voix est liée au sema vere, le vivant. Le vivant seul a une voix. Par le fait même, il y a une intériorité du son. La voix implique une intériorité du son, une immanence du son. qu'elle signifie.